Europe 1.
Europe 1.
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
À toutes les Françaises et les Français qui commencent à trouver le temps long. Ces citoyens, ces citoyennes qui, à force d'être confinés, commencent à perdre, comme Eva Rock, leur repère et même la notion du temps.
30 ans déjà, vous rendez compte, hein?
Non, Eva, 37 jours. 37 jours et c'est déjà pas mal. À tous ceux-là qui errent en calbute ou culotte t-shirt toute la journée, sans autre perspective que de continuer à liker des vidéos de chats sur Instagram, je dis bienvenue dans l'équipée sauvage. 2 heures d'évasion journalistique pour rire et découvrir tout en notant sadiquement les journalistes de la rédaction qui se tirent la bourre pour le titre de chroniqueur du jour. Avec nous dans cette deuxième heure, deux nouveaux concurrents chauffés à blanc, surtout Nathalie Chevan, chauffée au soleil de Marseille.
Pastis bien frais.
Bonjour Nathalie.
Oh, cliché. Bonjour messieurs.
Il n'était pas un cliché, c'est d'Arcelis.
Oui.
C'est vraiment,
ouais.
C'est l'âme de Marseille, Eva. Vous êtes, Nathalie, la correspondante d'Europe 1 à Marseille, cette ville où depuis l'épidémie, on ne prie plus la bonne mère, mais le bon Didier Raoult. Votre c'est sujet ça. Aujourd'hui, ces villes françaises qui s'organisent pour tenter d'attirer des touristes cet été et ainsi sauver leur saison.
Oui, je vais vous proposer d'ouvrir effectivement votre fenêtre, de sortir du confinement le temps d'un cliché pour rêver d'autres horizons.
Oh, face à vous Nathalie, virtuellement bien sûr, un cador de la rédaction d'Europe. Dans le monde, il y a 3 types qui ont eu le nez creux sur cette affaire du coronavirus. Celui qui, il y a 5 ans, s'est dit que c'était pas la peine de renouveler les stocks de masques parce que ça faisait quand même cher pour pas grand-chose. Donald Trump et Axel de Tarlé.
Et elles sont excellentes, les conséquences économiques du coronavirus.
Bonjour Axel.
Mais oui, mais je maintiens.
Notre
oui.
Devin.
Je maintiens.
Oui, ne maintiens pas trop.
Je parlais du prix de l'essence. Et ben voilà.
Ah, et voilà.
Conséquences du coronavirus. Sur ses pieds. C'est pas du tout ce que vous disiez dans cet édito.
Si, aujourd'hui. Je parlais des conséquences sur l'essence.
Aujourd'hui, Axel.
Écoutez vos bandes, monsieur.
Les bandes, oui, t'as raison.
Les bandes. Il y en a un qui est encore plus à l'ouest que moi, c'est lui. Axel, aujourd'hui, vous allez tenter de nous expliquer un phénomène économique sidérant dont on parle beaucoup sans comprendre comment c'est possible. Le cours du pétrole devenu négatif à moins 7$ en début de semaine. Mais comment c'est possible? Il n'y a quand même pas des gens qui vont payer pour nous donner du pétrole, Axel.
Eh ben si, c'est ça qui est incroyable. Il a même terminé à moins 37$. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous prenez le pétrole et vous prenez l'argent qui va avec. D'ailleurs, Mathieu Charrier, qui est jamais un faillotage prêt, recommandait sur Twitter qu'on applique ça à nos salaires. C'est-à-dire qu'on viendrait travailler et on donnerait de l'argent au patron.
Non, c'est pas une bonne idée. Ça
s'appelle le salaire négatif.
Voilà.
Ouais. On rentre dans le monde négatif. C'est-à-dire qu'on va au restaurant. Et c'est le patron du restaurant qui nous donne
paye.
De l'argent au moment de l'addition.
Voilà. Alors Axel, vous allez nous expliquer comment c'est possible, cette chose qui nous paraît être surréaliste. Alors, ces villes qui sortent le grand jeu pour nous attirer cet été, ou bien le mystère du cours négatif du pétrole, quel sujet vous intéressera le plus? Nous le saurons juste avant 18h. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 37e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de ma fidèle complice Eva Rock, eva.rock@europe1.fr. Réaction, question, texto, elle vous attend.
Ça vaut aussi pour les sextos, exactement.
Non. Bien sûr, Eva, mais séparons quand même ce qui relève de votre métier, ce qui relève de votre plaisir personnel, c'est mieux.
Salut, le confinement se passe bien. On a des cours en ligne qui fonctionnent. Une chose qui me manque, c'est le trajet pour aller au lycée. 20 minutes de marche, seul avec ma musique et le lever du soleil. J'occupe mes journées en jouant de la guitare, ça fait passer le temps. La preuve. Bon bah, ça me fera plaisir si vous reconnaissez.
C'est pas mal hein, quand même. Hein.
Mais il vous drague, lui.
Ils sont forts. Et il est lycéen, il s'appelle Adrien. Surtout. Arrêtez un peu, on l'embrasse.
Alors, il est lycéen, il peut aimer les cougars.
Bon, non, je ne sais rien. Mais on l'embrasse en tout cas, on le remercie pour son message. Et on a un autre message de Clément. Clément, il s'occupe notamment de tout ce qui est numérique pour l'émission Taratata. Et il nous a laissé un petit message hier.
Salut Eva, c'est Clément. Quoi de neuf chez les confinés? Alors quand on est confiné et qu'on bosse plus, étant confiné qu'à la maison, dans la vie normale, on aurait plein de choses à dire. J'ai un appart avec de la lumière, je peux bosser la fenêtre ouverte, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de pollution, donc il y a un côté très agréable. Vivement le retour au bureau quand même. On a envie de retrouver le chemin des plateaux et on a envie de retrouver quand même le chemin du boulot. Au plaisir sincère de se voir un jour en vrai, dans la vraie vie.
Bye bye. Tiens. Eh bien, décidément, Eva, vous cartonnez
en ce
moment.
Vous avez vu, hein, oui. Ouais, c'était ma fête aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous pouvez aller, je vous conseille vraiment d'aller revoir les pastilles de Taratata qui sont disponibles sur le site de Taratata. Et tous les soirs, Nagui, sur son site Instagram, en diffuse une. Sur son compte Instagram, en diffuse une archive de l'émission.
C'est Instagram, c'est donc une info.
Voilà, c'est ça, exactement. Non, il diffuse une archive de Taratata. C'est vraiment très bien fait et vous allez vraiment kiffer de certains grands moments musicaux de cette émission. Voilà.
On va kiffer, vous êtes sur Skyrock avec Eva Rock. Comment ça se passe chez vous à Marseille, Nathalie Chevan? J'ai l'impression que certains sont mieux lotis que d'autres dans le confinement.
Bah écoutez, là je vais vous dire que depuis quelques jours, hein, depuis 4 jours, le confinement il se passe pas très bien parce que moi je suis en polaire. Déprime complètement. Une demi-bretonne qui vous parle, il pleut, c'est un petit crachin, mais épouvantable.
Ce n'est que justice. Mauvaise pioche. Le temps pourri qu'on a eu pendant longtemps, alors que maintenant il fait beau dans le Nord. Et vous, Axel de Tarlé, vous êtes toujours confiné dans votre KGB ?
Ben non, moi je me ronce en maillot de bain, j'ouvre la fenêtre, il fait très beau ici. Hein.
Ça, c'est méchant.
Alors, on veut bien des photos parce que Axel de Tarlé, le dauphin d'or qui devient le dauphin doré au soleil de Paris, on a hâte de voir ça. Axel, Nathalie, Bibi, chaque après-midi, on est là pour vous changer les idées, recueillir vos réactions, tous unis contre ce Covid qui nous pourrit la vie. Mais on reste optimiste, comme Didier Raoult dans son laboratoire lorsqu'il s'adresse directement au virus.
Je vais te péter la gueule.
Didier.
Europe 1.
Alors qu'il semble falloir faire une croix hein, sur les vacances à l'étranger cet été, de nombreuses villes françaises cherchent à booster leur attractivité pour nous attirer en juillet-août et ainsi sauver la saison. Les offices du tourisme sont en train de concocter des campagnes publicitaires.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et vous, où partez-vous en vacances cet été? Quelques idées auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé il y a un mois, c'est juste après C2C, Down the Road sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage.
Down the Road, c'était C2C sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage confinée, le grand tournoi des journalistes d'Europe 1 qui depuis quelques semaines accueille en compétition nos correspondants en région. Or cet après-midi, nous prenons la direction d'une ville à nul autre pareil. Son soleil, son savon, ses grillons, sa chloroquine. Une ville où il y a bien longtemps maintenant que la ferveur des supporters de l'OM n'a pas résonné. Des supporters dont la poésie manque aux chaînes info.
Il y a même un shampoo en BFM. Ah bah. Oui, alors c'est une déclaration d'amour si on veut pour BFM, mais...
Tour de la Ligue 1. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nathalie, vous êtes notre correspondante à Marseille et vous nous parlez aujourd'hui d'une initiative lancée par l'Office du Tourisme reprise aux quatre coins de la France depuis le début du confinement. Ouvrir sa fenêtre pour prendre des clichés, des vidéos à partager ensuite avec le hashtag fenêtre sûre. On voyage, on redécouvre sa ville et ça fait du bien.
Bah oui, imaginez un coucher de soleil rose sur les îles du Frioul, le bleu de la Méditerranée, la beauté sauvage des Calanques, une balade dans les ruelles ensoleillées du vieux quartier du Panier. Vous y êtes là ?
Oui, on y est là. Oh là oui. Oui.
Ça fait rêver, ouais, hein, oui. Ça fait rêver. Et ben, et même ici à Marseille en ce moment, où je vous l'ai dit tout à l'heure, il pleut sans discontinuer. Hein, moral dans les chaussettes. Alors l'occasion est encore plus belle de se plonger dans les quelques 3000 clichés et vidéos pris depuis le 20 mars. On en prend plein les yeux et la plupart de ces instantanés sont l'œuvre d'amateurs depuis leur balcon et parfois cela donne des moments un peu magiques. Écoutez. Voilà, ça c'est un jeune saxophoniste. Il est
comme d'habitude
à son balcon. Il s'appelle Ryan Sax. Voilà, et ce soir-là, il jouait comme d'habitude depuis chez lui du côté d'Andoum à Marseille. Alors imaginez, on est face à la mer, on est en fin de journée. La lumière est magnifique et sur la terrasse, en face de lui, on voit des jeunes filles devant le coucher du soleil, les bras levés, briquet à la main. Vous savez, un peu comme dans un concert. Elles sont sur les toits et puis dans la rue, il y a les passants en bas qui applaudissent. Voilà, c'est un petit spectacle improvisé avec le soleil, la mer, la musique et les copains. À l'heure de l'apéro, on y est.
Paradoxalement, quand même, ce confinement aura suscité un nombre de moments poétiques, magiques, qui n'auraient jamais eu lieu en temps normal. Alors, il n'y a pas que des photos prises depuis des balcons, il y a aussi des initiatives partagées et des balades, Nathalie.
Oui, promenade éphémère de confinés, immortalisée sur les réseaux sociaux. Alors, je vous fais écouter, ça donne ça, par exemple.
Quelqu'un qui est au bord de l'eau, hein. Voilà, la chance.
Voilà, c'est le bruit de la mer, ça paraît tout bête. Mais là, d'entendre les vagues...
Ah, ça fait du bien. Ah non, mais vraiment, oui.
Alors là, vous voyez pas, mais la vidéo, elle a été postée depuis Cassis. On est face au Cap Canaille, désert. Avec au pied de la falaise, cette eau qui est complètement translucide, elle est en gros plan sur la vidéo. Et on peut presque s'y baigner. Et forcément, le ciel ce jour-là était bleu à l'infini. Alors, vous parliez d'initiatives. Il y a par exemple des œuvres d'art issues des collections des musées marseillais, mises à l'honneur pour l'occasion. Et puis, les initiatives solidaires, souvent, hein, celles des commerçants. Et puis, forcément, des recettes postées par plusieurs chefs marseillais. Bah oui, des chefs qui ont posté ça depuis leur cuisine familiale. Une recette, par exemple, avec du poulpe de roche au four, avec juste un petit filet d'huile d'olive. Non. L'occasion aussi pour ces cuisiniers de déclarer leur amour pour leur ville, comme Ludovic Turac, jeune chef du côté du Port des Goudes.
Ici, nous avons des belles huîtres numéro 2, du yaourt, de la menthe fraîche, des cornichons, de l'ail, du citron, du sel et un radis.
Moi, ce qui me plaît à Marseille, c'est un peu cette mentalité du Sud. Voilà, cette convivialité, cette jovialité, cet accueil chaleureux, cette espèce de rassemblement qu'on peut avoir très facilement pour profiter des bonnes choses. On est en vacances ici. Moi, j'ai l'impression de vivre en vacances à Marseille.
Et c'est vrai que c'est quand même la meilleure promotion pour la ville pour venir en vacances ensuite. Hein. Bah, franchement.
C'est ça, c'est des instantanés. Et puis, quand il parle, ce chef, on voit derrière lui le petit port des Goudes. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Eva, mais c'est vraiment un petit coin de bout du monde. On n'est pas très loin du côté de la baie des singes. Et là, c'est très, très sauvage. Enfin, vraiment, c'est très joli. Alors, vous l'avez compris, ce hashtag fenêtre sûre, c'est l'occasion de donner envie aux touristes de venir découvrir la région cet été. Et c'est tellement sympathique que la plupart des villes françaises ont lancé leur propre hashtag fenêtre sur Lyon, fenêtre sur Bordeaux, Paris, Montpellier, la Bretagne, en tout 130 destinations avec des scènes immortalisées comme cette crêpière à Carnac face à l'océan en train de cuisiner des galettes. sous le soleil. Clichés d'amateurs. Oui. Ça, c'est la demi-bretonne qui vous parle. Donc, c'est des clichés d'amateurs. C'est aussi des clichés de professionnels qui viennent enrichir cette galerie photo. C'est un gigantesque catalogue pour choisir aussi vos prochaines vacances d'été en France, forcément.
Non, bien, Nathalie, avec Eva, vous nous avez convaincus. Est-ce que vous avez une chambre d'amis?
Écoutez, je peux vous accueillir, il n'y a aucun problème.
Deux chambres d'amis, s'il vous plaît.
Non, c'est bon, je vous mettrai dans le jardin, si vous voulez.
Dans le jardin, oui,
je ferai du poulpe grillé.
Et ça sera très bien. Merci beaucoup, Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et peut-être future Madame Raoult. En effet, ce n'est pas encore sorti dans la presse People, mais le célèbre infectiologue est fou d'elle. Il la harcèle de messages.
Je t'aime d'une façon que ce n'est pas possible de le dire.
Oui, non.
Tout le temps, je te vois.
Oui.
Je te parle.
Oui, Didier.
Non,
Didier.
Je mange, ça pas de goût.
Non, Didier.
Le sommeil, ça m'a tué. Alors,
Didier,
si tu me veux pas,
au travail,
meurs,
Nathalie, cessez de le déconcentrer, il faut qu'il bosse.
Promis.
Les temps sont durs, surtout pour les couples confinés. Avant, mesdames, lorsque vous rentriez du travail, vous retrouviez un homme attentionné qui vous susurrait des « tu m'as manqué, mon amour » au creux de l'oreille. Maintenant, vous retrouvez un homme qui s'exclame
« y a jamais rien, cette TV de merde ».
Car oui, non content d'être devenu chiant, votre homme est également devenu belge. Évitez la double peine, écoutez les conseils télé des Baroque dans un court instant.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Confinement J37. Si vous ne trouvez pas rapidement un truc à faire ce soir, vous allez encore tomber dans le tragique guet-apens des apéros FaceTime. Dont la définition pourrait être, dans le Larousse 2021, apéro FaceTime, réunion virtuelle et saccadée, consistant pour des gens au bout du rouleau à se retrouver pour ne pas s'écouter les uns les autres, mais seulement eux-mêmes dans d'interminables monologues croisés.
Oh, regardez, c'est son dernier cadeau. Je lui dis, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, banco.
Oh, l'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film.
J'entends encore, banco. Un vrai capricorne, celui-là.
Remarquez forcément, hein, je suis attachée de presse. Alors, qui dit attachée de presse, dit presse.
Pour ce qu'on s'en servait de cette caravane en plus.
Mais quand je pense qu'il a fallu un meurtre pour qu'on parle de mon film, c'est quand même hallucinant, non? Enfin, quand je dis parler, il y a un journal qu'on a parlé.
Ça n'est jamais servi de la caravane. Ah, si, une fois.
Non, deux. Il y a eu deux journaux.
Ce soir, les amis, dites non à l'apéro FaceTime grâce au conseil télé et écran des Varocs. On est mieux devant la télé.
Vous voyez que j'ai raison. Donc, arrêter
finalement,
avec les
vous avez raison. J'en suis revenu des apéros FaceTime.
Là, je vous propose d'aller sur TF1 à 21h ce soir. Nouvelle série médicale. Alors oui, je sais, c'est pas forcément ce dont on a envie en ce moment, mais je vous promets quand même une série divertissante. C'est intitulé The Resident. Alors, direction Atlanta, c'est l'hôpital Chastain. C'est un établissement privé très grand luxe qui est placé sous la responsabilité d'un chirurgien ultra antipathique, qui multiplie d'ailleurs les erreurs médicales, mais qui les cache évidemment. Dans l'équipe, il y a le petit nouveau Devon Pravesh, et puis le médecin star Conrad Hawkins, un ancien docteur des Marines, un type assez charmant physiquement, mais brut de décoffrage et dont le dos dévoile un immense tatouage sur lequel il est indiqué plutôt la mort que le déshonneur. Voilà. Un médecin qui déteste son patron de chirurgien, extrait d'un dialogue avec une de ses consoeurs.
T'as vu les avis sur lui, sur le net? Il a 5 étoiles. Les patients le vénèrent. Le docteur Mamour existe. Tu veux les avis sur toi?
Non, rien à faire.
T'as une étoile. Évitez le docteur Okafor, elle a dit que j'avais l'utérus tout sec.
Il était tout sec.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on note les médecins aux États-Unis, mais aussi en France, mais beaucoup aux États-Unis. En fait, la spécificité de cette fiction parmi les autres séries médicales, eh bien, c'est justement cet aspect politique, je dirais. C'est-à-dire que le système de santé américain est extrêmement bien décrit, souvent dénoncé, notamment dans sa partie la plus mercantile du terme. Et ça donne vraiment un truc en plus à ce genre de séries médicales. Voilà. Alors évidemment, The Resident, c'est pas mieux ni aussi bien qu'Urgence ou Dr House, mais je reconnais avoir passé vraiment un très bon moment devant cette fiction, et c'est à voir à partir de 21h05 sur TF1. Voilà.
Et C8 propose quoi, Eva?
Eh bien, une soirée formidable autour d'un comédien et un seul, Alex Lutz. Au menu des 20h, un best-of de Catherine et Liliane. Vous savez, la pastille incarnée par Alex Lutz et Bruno Sanchez. Et depuis quelques jours sur les réseaux, d'ailleurs, il y a un sketch qui est réapparu, et pour cause.
L'Organisation Mondiale de la Santé, oui, l'OMS, ils ont fait une liste des maladies qui pourraient causer un danger international.
Ah, ben c'est bien.
Il y a une maladie nouvelle qui s'appelle maladie X.
Oh là là, maladie X, ça fait peur. Et c'est quoi?
Une maladie très très dangereuse. Elle n'existe pas encore. Enfin, elle n'existe pas, cette maladie.
Non, non, mais quand elle existera, ce sera très très grave. C'est pour ça qu'ils se préparent, tu vois.
Enfin, ils ont engagé des hypochondriaques à l'OMS ou quoi?
Mais je sais pas, moi j'espère qu'ils vont trouver un remède très vite, surtout.
Mais à quoi ça sert de trouver un remède puisqu'elle n'existe pas? Enfin, c'est l'OMS ou un groupe de mamans? Tu dis pas aux gens, attention, il y a un risque de mourir imminent, on sait pas lequel, mais il est là. Ça se fait pas.
Non mais franchement, quand vous revoyez le sketch, vous dites mais c'est incroyable.
Je me souviens de ce truc.
Alors, c'est un best-of qui sera suivi d'une émission spéciale Clique sur Alex Lutz, puis du dernier spectacle tourné aux Folies Bergères, et enfin le making-of d'un autre programme court d'Alex Lutz qui s'appelle le Stéréotope. Ne manquez pas surtout, mais vraiment, le spectacle d'Alex Lutz, c'est exceptionnel, Mathieu. Depuis l'entrée sur scène ratée à cheval jusqu'aux dernières secondes, à cheval encore, oui, il y a un cheval sur scène. Ne manquez pas notamment l'explication de l'expression pas piquer des hannetons, ou encore cette recette de carbonara sans lardons, ni crème d'ailleurs, ni pâte non plus. C'est vraiment une recette spéciale pour Olivier Pouls. C'est 1h45 de bonheur. C'est à voir sur C8 à partir de 21h15. Et je vous reparlerai d'Alex Lutz demain parce qu'il est à l'affiche d'une série incroyable qui est vraiment la série événement sur Arte et qui s'appelle Dérapage.
Et alors, vous mettez-le à la bouche, on ne sait pas ce que c'est.
Non, on verra ça demain, vous verrez.
Oh, coquinette. Et comme voilà. Tous les jours, Eva, vous avez déniché des séquences sympatoches sur les réseaux sociaux.
Oui, avec un chef d'orchestre de cette séquence, Sébastien Bordenave, au programme Encore un voisin saxophoniste, une leçon de musique avec l'humoriste Christelle Chollet et le monologue poétique d'Edouard Baird.
Bien sûr, au début, ça allait, tu te disais, c'est bien, c'est l'occasion de rencontrer cette personne avec qui je vis depuis tant d'années, que je ne connais pas, que je cherchais à éviter, à changer de trottoir quand elle passait moi-même. Bien sûr, tu ne t'intéressais pas plus que ça, ou parfois trop. C'est difficile la bonne distance avec soi-même. Et puis là, l'immobilité t'a rendu à ça.
À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Kelly Jones. C'est une chanson du groupe Indochine qui parle d'un héros de bande dessinée qui s'appelle Bob Moran.
Si c'est une bande dessinée, j'aurais préféré qu'ils écrivent sur les Schtroumpfs.
C'est une plage de champignons, les héros s'appellent
Et alors pour tout vous dire, Mathieu, j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas le même saxophoniste que notre ami marseillais qu'on a écouté tout à l'heure avec Nathalie Chevance.
Ben je crois reconnaître son son, parce que vous savez que moi-même je suis saxophoniste.
Exactement.
Donc, j'ai une sacrée oreille pour ça, si vous voulez, on ne me la fait pas. Et je crois effectivement qu'il s'agit
mais
du même saxophoniste.
Mais je crois bien que c'est lui. Ouais, exactement, et c'était un hasard, voilà.
Voilà, et il me fait savoir, n'est-ce pas, sur Instagram, qu'il viendra à la sortie du confinement pour jouer du saxophone chez vous, Eva, directement pour
bien
vos
sûr,
oreilles
c'est
et
gentil.
Votre plaisir personnel.
Je suis
merci
très contente.
Pour ce petit montage du meilleur des réseaux sociaux, c'était le mix.
Europe 1.
À suivre, c'est un événement économique si étonnant qu'il mérite l'explication d'un spécialiste. Le baril de pétrole valait hier moins 37 dollars. Comment quelque chose peut-il valoir une somme négative? Pour le comprendre, on a choisi de faire appel au journaliste économique le plus doué en mathématiques de sa génération, comme il nous l'a avoué l'autre jour.
Justement, j'étais en train de faire de la physique avec mon petit. Il était en train de diviser 0,6 par 0,01. Et alors, on comprenait pas du tout, ça faisait un énorme chiffre.
Axel Einstein Tarlé arrive juste après Musical You've passed the Dutchie sur Europe 1.
This generation rules the nation with version. Music amps are full of love. Sounds to really make you rub and scrub. I said,
pass the Dutchie on the left hand side. Pass the Dutchie on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make
Jano.
Me jump in a
dee. Because a cool and lonely, breezy afternoon.
How does it feel when you got no food?
I could feel it, cause it was the month of June.
How does it feel when you got no food?
So I left my gate and went out for a walk.
How does it feel when you got no food?
There was a ring of jets and a
session was there in swing.
How does it feel when you got no food?
I could feel the chill as I seen and heard them say.
How does it feel when you got no food?
Pass the dough chip on the left hand side. Pass the dough chip on the left hand side. It ain't go fun.
Give me the music, make me jump, pump, pump.
It ain't go done.
Give me the music, make me rock in the dark. Me say listen to the drum, me say listen to the bass.
Dutchy, c'était Musical You sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes continue, l'émission qui vous permet d'oublier un peu le confinement, mais aussi d'y voir plus clair dans une actu parfois compliquée. Je pense notamment à l'actu boursière où le jargon des commentateurs et analystes nous empêche souvent de comprendre vraiment ce qui se passe sur les marchés. Heureusement, Europe 1 a créé Axel de Tarlé, notre expert en économie et surtout en simplification de l'économie. Avant, la bourse à la radio, c'était ça.
Écoutez, la situation est loin d'être morose. Donc, je crois qu'il suffit de rester attentif aux taux évalués au jour le jour sur l'emprise des fixations monétaires à court, moyen, long terme.
D'accord.
Et les résultats ne peuvent être que satisfaisants.
Dieu soit loué, depuis qu'on a Axel de Tarlé, tout est beaucoup plus simple.
Bill Gates, il a qu'à en donner du fric. Ben voilà.
Axel,
et ben voilà.
Heureusement que vous êtes là, Axel. Expliquez-nous donc simplement ce qui se passe avec le prix du baril de pétrole devenu cette semaine, si j'ai bien compris, négatif.
Oui, moins 37 dollars. C'est vrai que j'en suis pas revenu moi-même. C'était jamais arrivé dans l'histoire du pétrole. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que le pétrole se négocie au mois le mois. Et c'est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Dans la nuit de lundi à mardi, on était en train de clôturer le pétrole pour le mois de mai, pour les livraisons au mois de mai. Et donc, si vous voulez, vous aviez des tas de banquiers très propres sur eux à la défense. Enfin non, c'était aux États-Unis, donc à Wall Street, etc. Qui, il fallait vraiment, ils avaient du pétrole, mais il fallait vraiment qu'ils le vendent parce que sinon, s'ils le gardaient, ils allaient être vraiment livrés d'un baril de pétrole à la banque, si vous voulez. Vous voyez ?
Ah oui.
Donc, ils étaient obligés de le vendre. Voilà, parce que c'était le pétrole qui devait être livré échéance mois de mai.
D'accord.
Et dans cette nuit de lundi à mardi, le problème c'est qu'il n'y avait plus d'acheteurs, parce que plus personne...
Ne circule ? Bah oui.
Bah, plus personne ne circule, plus personne, les avions sont à l'arrêt, et puis surtout les cuves sont pleines. Et donc même pour stocker ce pétrole, vous savez qu'il y a au large des côtes, des raffineries, il y a des navires qui sont là, plein de pétrole, qui servent un peu de réservoir, les cuves sont pleines, et donc il fallait vraiment payer, et payer cher pour se débarrasser du pétrole, et c'est comme ça qu'on a eu un prix de moins 37 dollars. Alors là, du coup, maintenant, on traite en ce moment l'échéance de juin. Donc, vous voyez, les traders ont un peu de temps pour se débarrasser du pétrole. C'est pour ça qu'il est remonté en positif. Mais enfin, il ne vaut pas cher du tout. Là, je viens de regarder. On est à 10 dollars le baril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, on était à plus de 60 dollars le baril. Alors, un baril, ça tient une petite colle. Un baril,
oui,
c'est combien de litres ?
100 litres, non ?
Un peu plus, 159 litres. Ce qui fait que j'ai fait le... J'ai fait la petite division, cette fois je ne me suis pas trompé. Ça fait 5 centimes le litre de pétrole. D'ailleurs, tant mieux, hein, cette baisse vertigineuse du prix du baril va se répercuter à la pompe. On commence à parler
d'un litre d'essence, d'un litre de carburant qui passerait sous la barre des 1 euro.
Oh, ça fait combien d'années que c'est pas arrivé, ça?
Ah bah,
c'est jamais arrivé.
Des années et des années. Oui, je pense que depuis qu'on est passé à l'euro.
À l'euro, c'est pas arrivé.
Ça n'est jamais arrivé, vous voyez. Ouais. Donc là, ça ferait un litre d'essence à moins de 6,50 francs. Donc il faudrait remonter dans les années 80, au début des années 90. Encore que le FMI a une très bonne idée. Il vient de faire une très bonne suggestion pour les États désargentés. Le FMI vient de dire, vous savez quoi? Puisque l'essence a énormément baissé, c'est le moment de relever en douce les taxes sur les carburants.
Ça ne se verra pas.
Dites-moi, voilà. Axel, mais pourquoi tout simplement on n'arrête pas? Parce que je comprends, la fixation des prix en économie, c'est quand même l'offre et la demande. Pourquoi est-ce que les pays producteurs de pétrole n'arrêtent pas tout simplement les puits? Et pourquoi la production continue? Si on arrête la production, ça fera de la réserve et le prix va remonter.
Voilà, la production devrait s'arrêter à s'ajuster à la demande. Mais en fait, d'abord, c'est compliqué de fermer un puits de pétrole. Et puis, le monde du pétrole est un monde impitoyable et égoïste. Si vous voulez, chacun dit, tu veux pas plutôt fermer ton puits, moi je garde le mien, parce que tout le monde se dit les gens préfèrent vendre, si vous voulez, du pétrole même à 10 $, l'Arabie Saoudite, plutôt que de pas le vendre du tout. Ça fait même à 10 $, ça fait quand même un petit peu de recette. Et vous savez ce qui se passe même, c'est comme il est pas cher, on va en vendre deux fois plus, comme ça on va garder nos mêmes recettes. Donc vous avez même ce truc fou qui est arrivé, c'est que face à la chute des cours, l'Arabie Saoudite et la Russie ont augmenté leur production. Bon, alors finalement, là, ils ont fait machine arrière, mais ça rend fou de rage, d'ailleurs, Donald Trump, parce que vous savez que le premier producteur mondial de pétrole, maintenant, vous savez qui c'est? Ce sont les États-Unis, avec leur pétrole de schiste. Et ça occupe énormément d'emplois dans des États comme le Dakota, comme le Texas. Et donc, Donald Trump est assez furieux de cette chute du pétrole. Il a passé un savon au prince Bin Salman, parce qu'il dit, moi, tu vas me mettre au chômage toute mon industrie pétrolière. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Pendant cette crise, moi, je pensais... Il y a des tas de choses que je ne pensais jamais voir. ExxonMobil, je me souviens, mais quand j'ai commencé en bourse, c'était la plus grande compagnie cotée au monde. Eh bien, ExxonMobil, la valeur d'ExxonMobil est désormais inférieure à celle de Netflix. Vous vous rendez compte? Voilà. Un vulgaire site internet...
Attention à ce que vous dites.
Attention, c'est le fonds de commerce d'Eva.
Votre fonds de commerce, vous voyez, il vaut plus cher que... Exxon, c'est quand même l'héritier de Rockefeller. Hein.
Ouais, oui.
Alors chez nous, ça s'appelle SO. Hein. D'ailleurs, c'est le vrai titre, c'est SO. SO, c'est SO, Standard Oil. C'est la compagnie de Rockefeller. C'était la Standard Oil of New Jersey. Alors du coup, ils l'ont rebaptisé Exxon parce que pour la différencier des autres Standard Oil. Voilà.
Eva, vous avez des questions encore pour Axel?
Axel, j'ai deux questions, Axel. D'abord, vous êtes habillée ou pas?
Non, merci. Pas ce genre de questions. Merci.
C'est intéressant quand même. Hein. Je suis désolée, les gens veulent savoir.
Les gens veulent savoir.
Mais oui, la France veut savoir.
C'est une question qui revient souvent, les amis. Pourquoi les invités de l'équipe sauvage aime tant cette émission? Eh bien, si je devais avancer modestement, bien sûr, une hypothèse, je dirais tout simplement que si les artistes, cinéastes, auteurs qui nous ont rendu visite ont tellement aimé faire l'émission, c'est qu'ils ont compris qu'ici, on bossait vraiment nos interviews. Et vous me disiez en antenne qu'un deuxième film était dans les tuyaux.
Oui, alors le deuxième film est déjà sorti il y a quelques années. C'est un peu triste parce qu'il n'a pas eu beaucoup de spectateurs et notamment pas vous, visiblement.
Pas rancunier, certains sont pourtant revenus, figurez-vous. On se réécoute quelques-unes de nos plus belles interviews dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
C'est avec une certaine nostalgie que chaque après-midi vers 6h-20, nous ouvrons avec Eva l'album Souvenir de l'équipée sauvage. Pour contempler le monde d'avant, quand on recevait un invité en studio et que je lui remettais un petit trombinoscope afin qu'il puisse choisir son journaliste préféré et à la fin de l'émission voter pour lui. Un rituel qui avait d'ailleurs donné lieu à d'invraisemblables tentatives de tricherie, notamment de la part d'Axel de Tarlé, manœuvre qui avait particulièrement choqué le comédien Marius Colucci le 11 novembre dernier.
On m'a donné une feuille avec une petite photo de tous les chroniqueurs et leur nom pour que justement, je ne comprenais pas mais je viens de comprendre, c'est pour que je puisse t'en désigner un à la fin. Axel de Tarlé, viens me dire, attention, il y a un truc qui est tombé par terre. Évidemment, il n'y avait rien. Alors voilà, il m'a filé un truc avec que Axel de Tarlé, sa photo partout.
Je suis prêt à tout pour gagner.
Et oui, chez nous, Marius Colucci, le fils de Coluche, avait été confronté à l'âme humaine dans toute sa bassesse. On avait pourtant passé un bon moment, souvenons-nous. Bonjour Marius.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien. Les Français vous connaissent notamment pour votre rôle dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et vous venez nous présenter Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon, un recueil des citations de votre père qui sort aux éditions du Cherche Midi. Déjà, est-ce que c'est émouvant pour vous d'être dans le studio qui porte le nom de votre père? Vous êtes dans le studio Coluche aujourd'hui.
Ah c'est ça, parce que sur l'écran il y avait marqué siège Coluche et je me disais mais ils sont fous, ils m'ont posé au siège Coluche, ils sont vraiment... Il faut arrêter hein, sur Europe avec Coluche, c'est bien, hein, on est très content. Mais bah écoutez, non, c'est sympa, oui, c'est vraiment bien. Et puis effectivement, il est resté plusieurs années à être très très écouté à l'antenne, donc bah, c'est bien que il y ait une mémoire comme ça ici. De
vous,
Coluche.
Vous aviez quoi, 8-10 ans quand il était sur Europe 1? Vous l'accompagniez parfois dans les studios à l'époque?
Non,
pas du tout.
Pas du tout.
Jamais, il vous emmenait pas, c'était vraiment
non,
une...
Non, non, non. Bah, lui, il avait sa bande à lui, hein. Ouais. Il y avait Jean-Jean qui était là pour rire, il avait toute sa bande de... C'était pas vraiment des chroniqueurs à l'époque, hein. C'était pas développé comme aujourd'hui maintenant, hein. C'était un peu pionnier, quoi, on va dire. Mais non, moi j'ai jamais été à la radio particulièrement... voilà, je me rappelle qu'on allait bouffer à la coupole après des steaks frites, mais c'est mon seul souvenir de la radio, pardon.
Est-ce que Marius, à chaque fois que quelque chose sort portant le nom de Coluche, vous êtes consulté, c'est vous qui gérez l'héritage?
C'est... Normalement, oui, mais bon, ça c'est pas toujours... Là, le problème, c'est que Coluche, aujourd'hui, c'est tellement répandu en France,
ça
c'est une institution, que ça peut nous échapper. Le film, par exemple, on n'était pas très pour, hein, le film sur Coluche, simplement, si on avait voulu dire non, on le fait pas, il faisait un film sur un humoriste français qui s'appelait Paluche, et puis on pouvait rien dire.
Ah, le film, vous avez pas plu, le film d'Antoine Decaune, hein, l'histoire d'un mec, c'est ça?
C'est quand même la première fois qu'on fait un drame sur un comique, quand même, c'est-à-dire que c'est hors sujet, quoi.
Vous trouvez le film pas drôle, en fait, ça reflétait pas
C'est un film, déprimant, un film... En fait, ils ont voulu faire comme La Môme, comme il y a La Môme qui était sortie juste avant, mais qui, Edith Piaf, a eu une vie... qui est assez tragique, avec une histoire d'amour tragique. Ils se sont dit, on va faire pareil avec Coluche.
Ils ont mis du pathos là où il y en avait.
Exactement.
Pas, en fait.
Donc, c'est... Comme disait mon frère, c'est comme si on faisait une comédie musicale sur le suicide de Bérégovoy, quoi.
C'est pas mal, ça. Coluche aurait pu la faire lui-même, celle-ci. C'était bon. Coluche est mort il y a plus de 30 ans. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il reste si présent dans l'esprit et le cœur des Français? Quand on pense surtout aujourd'hui à la concurrence humoristique, l'offre pléthorique d'humoristes, pourquoi Coluche reste une référence si importante?
Il était visionnaire un peu. Visionnaire, ça fait prophète, mais il avait un œil. Et puis, il venait de la rue. Il venait de la rue comme la plupart du public. Et il disait de façon intelligente tout ce que eux voudraient pouvoir dire, alors que ce soit d'ailleurs pour la politique, pour tout et n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup retenu la politique parce que Coluche, c'était le premier à parler de politique en France. Avant, ça se faisait pas. Ça se faisait surtout pas d'ailleurs. Je crois que le sketch le plus politique dont je me souvienne d'avant Coluche, c'est Fernand Reynaud qui fait « J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français
». Mais ça ne citait pas nommément des hommes politiques et c'était pas dans l'actu politique.
Voilà, c'était plus sociétal que politique, on va dire.
La recette de Coluche est peut-être dans une des citations de ce livre, quand il dit « Le plus dur dans le One Man Show, c'est de ne pas parler de soi. Ce qui est intéressant, c'est la psychologie du public, pas la sienne ». Il se mettait toujours à la portée du public. C'est l'inverse du stand-up. On raconte sa vie.
Malheureusement, aujourd'hui, les stand-up, c'est un peu ça. C'est qu'ils sont très forts sur la forme. Mais de quoi ça parlait? De lui. Il n'y a aucun fond aujourd'hui. Ouais. Alors que Coluche, c'était ça. C'est que des fois, la forme passait pas bien. D'ailleurs, au début, on l'appelait quand même le roi des vulgaires. Ça, c'était... Mais finalement, ce qu'il racontait derrière, c'était intelligent. Et c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Quoi.
Est-ce que vous-même, en revisitant ces citations, vous avez découvert des punchlines, comme on dit aujourd'hui, que vous ne connaissiez pas?
Oui, on en retrouve... C'est pour ça que c'est bien de temps en temps de refaire un petit almanach, voilà, parce que comme ça on peut refaire le point. Et puis ça permet notamment de vérifier qu'est-ce qui est du Coluche et qu'est-ce qui n'en est pas.
Ah,
parce que sur les réseaux sociaux,
il y a des citations,
beaucoup de citations, alors, ou bien de Coluche qui sont prêtées à Churchill, ou bien l'inverse, de Churchill qui sont prêtées à Coluche. Il y en a qui se sont fait épingler, hein,
drôle.
Qui se sont fait avoir.
Ah ben moi j'ai dû me faire avoir parce que souvent je prends des petites citations comme ça et souvent il y a Coluche et souvent il y a Churchill, donc bon. C'est l'un ou l'autre, finalement. C'est bon. Mais oui, à chaque fois, je dois me tromper. Est-ce que quand on est le fils de Coluche, on est forcément le fan de Coluche? Je veux dire, J'imagine que globalement, vous êtes fan de Coluche, mais est-ce qu'à un moment de votre vie...
T'aimes ton père, toi, comment tu dis?
Oui, mais non, mais fan de l'artiste, est-ce qu'à un moment de votre vie, par exemple, à la fin de l'adolescence, on aime moins son père à la fin de l'adolescence, est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, ah, Coluche, finalement, je sais pas, il y a d'autres
humoristes. C'est vrai qu'il y avait un truc, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'on connaissait un petit peu, quand on était ado, les filles de Pierre Desproges. Ouais. Et les filles de Pierre Desproges étaient beaucoup plus fans de Coluche que de Desproges et vice versa.
Et vice versa, d'accord.
Voilà.
Il y avait baston, c'est ça, vous faisiez des battles.
C'est ça, ouais. On disait bah non, c'est vachement mieux écrit. Oui, mais non, c'est beaucoup plus pertinent. Enfin voilà.
Europe 1.
On en parlait hier avec notre invité Michel Larocque. Ce qui nous manque le plus durant ce confinement, c'est les petits dîners entre amis.
Ah oui, c'est vrai.
On a beau essayer de téléphoner à ses amis en dînant, le résultat n'est pas le même.
Qu'est-ce que vous avez mangé, bande de vaches?
Allô? Nous avons mangé une belle entrecôte. Oui, un beau camembert, mon petit. Oui.
Comment?
Ah oui, il voudrait qu'on lui fasse renifler par le téléphone.
Ah oui, amenez les restes, il faut pas le contrarier.
Oh, c'est comme si je l'ai touché, mon adjudant.
Alors, à défaut de dîner entre amis, pourquoi ne pas cuisiner en famille? Ça, c'est permis durant le confinement. Olivier Poulx vous offre chaque soir une recette à réaliser avec vos enfants. Délice in extremis arrive juste après Gregory Porter, Revival sur Europe. I try and run, I grow weary. I try and walk, and I grow faint. You lift me high. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Revival, c'était Gregory Porter sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bruno Le Maire l'a dit, le coronavirus est une catastrophe pour l'économie. La croissance va reculer de 8%. Parmi les plus touchés, les PME, comme cette petite société bourguignonne de traiteurs pour mariage qu'Olivier Poulx a créée il y a 15 jours pour, je cite, « mettre du beurre dans les épinards ». Étrangement, ces formules haut de gamme, caviar, foie gras, langouste safranée, peinent à convaincre des clients qui, soi-disant pris à la gorge par la crise, n'ont de cesse de pinailler.
On supprime l'entrée. Là, je suis complètement, c'est vrai. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal.
Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça.
Attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. À la place, compote, mets du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et servi à la louche. À la louche.
Facile le business en ce moment. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis, mais je vous signale quand même qu'en ce moment des mariages, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est, évidemment c'est compliqué. Hein.
Non, il n'y en a plus
c'est
du tout.
C'est pas faux, effectivement. Mais c'était mon petit extrait d'un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite à découvrir.
Le sens de la
d'ailleurs,
fête.
D'ailleurs, en VOD, Le sens de la fête de Toledano et Nakache. Alors Olivier Pouls, cette semaine... vous faites œuvre d'utilité publique. Vous nous proposez des recettes à concocter
oui,
avec
et
nos
en voilà
enfants.
Une nouvelle pour aujourd'hui avec un produit de saison que tous les enfants et les parents adorent. Ce sont les fraises.
Ouh. Ah oui.
Alors j'espère que vous avez mangé déjà les premières fraises.
Attendez. Moi j'ai mangé un tiramisu à la fraise exceptionnel, Olivier. Vous m'en direz des nouvelles. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais
ça c'est pas mal aussi. Alors, fraises, évidemment, françaises. Il faut faire attention parce que on pourrait penser qu'avec le confinement, les produits espagnols de mauvaise qualité n'arrivent plus jusqu'à nous, mais c'est pas vrai. En réalité, il y a encore pas mal de fraises espagnoles dans les grandes surfaces. Et autant vous dire que comparé à la fraise française, à la gariguette ou à la fraise de Carpentras, qui est évidemment un petit peu plus chère, mais ça n'a strictement rien à voir en termes de qualité.
J'aime votre chauvinisme, Olivier.
Alors, l'idée, c'est de faire une tarte minute aux fraises, pour petits et grands. Alors, il vous faut pour ça une pâte feuilletée que vous achetez évidemment dans le commerce, et cette pâte feuilletée, on va la cuire sans la faire monter. Donc c'est très simple, on va la poser sur une plaque qui va au four, sur une feuille de papier sulfurisé, on va remettre une autre feuille de papier sulfurisé par-dessus, et une autre plaque, de manière, si je me fais bien comprendre, à l'enfermer.
Oui.
On l'enfourne.
C'est pas très
dans
gentil
un four.
De l'enfermer. Bref.
Bah oui, mais je veux qu'elle reste bien plate. Elle n'en sera que plus croustillante.
Mais oui.
Et on l'enfourne dans un four à 160-170 degrés pendant 40 minutes. Le temps de nettoyer correctement 500 grammes de fraises, qu'on va tremper dans une eau légèrement vinaigrée, et on les équeute après, toujours. On coupera les fraises simplement en deux. Et on va monter une jolie chantilly à la vanille. Alors pour ça... chantilly qui se tient bien, je prends 200 g de crème liquide, 75 g de mascarpone, si on ne trouve pas de mascarpone, on peut rajouter uniquement de la crème liquide, environ 30 à 40 g de sucre et une belle cuillère, plutôt à café, de vanille en poudre. Un robot ou de l'huile de coude, on monte une belle chantilly. On va récupérer notre plaque de pâte feuilletée qui aura cuite, on la laisse refroidir. On va venir tartiner une belle quantité de cette chantilly et disposer des fraises par-dessus. On termine avec une petite touche ou de menthe ou de zeste de citron vert. Et on a monté, franchement, en 45 minutes, cuisson comprise, une tarte aux fraises fraîche et croustillante.
Pas mal.
Qui fera le bonheur pas des mal. Enfants et de toute la famille. En plus, en plus
c'est
pas de gaspillage,
idée.
Puisqu'évidemment, avec le reste de crème chantilly, on peut se livrer à toutes sortes de jeux sexuels. Ça, ce sera Eva qui nous donnera la recette un peu plus tard. Je crois que vous avez certaines propositions à faire à nos auditeurs. Merci
Absolument.
Beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouvera demain et évidemment tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe
1. Europe 1.
Qui sera élu chroniqueur du jour? La tension monte entre nos journalistes, surtout ceux d'entre eux qui sont engagés dans des aventures d'ordre extra-professionnel, comme Axel de Tarlé et Anne Le Gall. Mais chut!
Tu travaillais moins, tu baserais mieux.
Ça suffit, ne mélange pas tout.
À tout de suite pour la grande finale entre les meilleurs journalistes d'Europe.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est bientôt la fin du voyage pour la 37e édition confinée de l'équipe sauvage. Une parenthèse de rire et de bonne humeur au cœur de votre après-midi. L'équipe sauvage, c'est vraiment l'émission Feel Good d'Europe 1. Même si, attention, il y en a d'autres. Hein. Je pense notamment au nouveau podcast Au cœur de l'histoire de Jean Descartes.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. En cette période d'épidémie de coronavirus, vous voulez que je reprenne tout ?
Qu'est-ce qu'on se marre sur Europe 1 ? Eux, ils se marrent moins, car c'est l'heure du kit au double. Chaque journaliste en compétition a 10 secondes pour défendre sa cause et sa chronique. Axel de Tarlé, pourquoi devrions-nous voter pour vous cet après-midi ?
Bah écoutez, je vais vous dire, moi j'ai pas besoin d'en rajouter sur mon excellente chronique parce que je viens de voter et comme tout le monde j'ai voté pour moi et j'ai vu le résultat s'est affiché que j'étais en tête.
Mais tenez-vous,
mais si Eva Rock ne magouille pas les chiffres d'ici là, je devrais largement gagner haut la main cette chronique, cette compétition.
Ah mais non, c'est
il
n'a
plus aucun respect pour le règlement pour rien.
Voilà.
Axel, je ne voterai pas pour vous. Voilà. Nathalie Chevance, pourquoi voter pour vous?
Parce que déjà, Marseille, c'est soleil garanti toute l'année, alors sauf en ce moment. Voilà. Et puis parce que le hashtag Fenêtre Sûre lancé partout en France, ce sont de très belles photos qui ne peuvent faire que du bien pour le secteur du tourisme, qui en aura bien besoin cet été.
Une très belle photo maintenant, Fenêtre sur Anne Le Gall. Pourquoi voter pour vous, Anne?
Eh bien, parce que si Axel a déjà raflé tous les points des auditeurs, eh bien moi, je veux bien les vôtres. C'est la journée mondiale de la Terre, donc c'est le jour ou jamais pour voter pour un sujet sur l'environnement. Et puis en plus, maintenant, vous savez comment vous prendre pour un astronaute.
C'est vrai,
c'est vrai. C'est vrai. Alors,
Jean-Philippe Ballas, serez-vous aussi stratège qu'Anne Le Gall? Pourquoi faut-il voter pour vous?
Et Mathieu, vous avez diffusé Isn't She Lovely de Stevie Wonder dans cette émission. Donc la France est derrière moi, elle considère que c'est déjà une victoire.
Oh non, mais c'est pas possible.
L'arnaqueur de Malakoff. Eva, nous votons, mais c'est moi qui vote en premier.
Allez-y, Mathieu.
Hiérarchie oblige. Je vote aujourd'hui pour Jean-Philippe Ballas. Je vais voter pour Jean-Philippe Ballas.
Mais oui.
Plus pour Stevie Wonder que pour Jean-Philippe Ballas d'ailleurs. Mais bon, c'est lui qui récolte les points puisque Stevie me fait signe par SMS qu'il s'en fout du classement de l'équipe sauvage. C'est donc Jean-Philippe Ballas qui décroche un point. Eva, pour qui votez-vous cet après-midi?
Effet Madeleine de Proust, mais Marseille, évidemment, Nathalie. Merci infiniment pour le bruit de la mer et le soleil. Donc un point pour Nathalie, voilà.
Romain Causeur, notre réalisateur, vote lui aussi. Pour qui avez-vous choisi de voter cet après-midi, Romain?
Mathieu, aujourd'hui, je vais voter pour Anne Le Gall.
Merci.
Anne Le Gall et sa journée de la Terre, qui pour une fois n'implique pas que nous plantions nos slips. Eva, c'est donc le public qui va faire la différence aujourd'hui. Quel est le choix
de nos
auditeurs?
Il a déjà tout dévoilé, cet idiot d'Axel de Tarlé, parce que c'est lui qui a remporté les deux points. Il a vu à l'avance. C'est moche que vous avez fait, Axel. Hein. Voilà, et c'est Axel qui gagne.
Ce n'est pas un grand chelem, mais c'est une victoire quand même pour Axel de Tarlé. C'était la 159e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes petits confinés du jour, Eva Roth, Nathalie Chevance, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlé et Olivier Pouls, Romain Causeur et Rémi Duprat en régie. Mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez le monde changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.